France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Rêver d'un musée, rêver de créer un musée qui n'existe pas, qui n'a pas son pareil, qui rendrait le visiteur plus intelligent, plus heureux, plus savant. Le visiteur est les contributeurs de tous ordres de ce musée. Il n'est pas donné à tout le monde de créer un musée, de voir son rêve réalisé, de le faire vivre. Georges-Henri Rivière n'avait pas inventé le terme d'écomusée, mais il avait le territoire dans la peau, un laboratoire. Tout ce qu'il touchait avait une fonction de laboratoire. La muséographie n'est pas un instrument du passé. Voici le dernier volet de l'émission Profil perdu, consacrée en 1990 par Paul Chavas à Georges-Henri Rivière.
Profil perdu. Georges-Henri Rivière, 1897-1985. Cofondateur du Musée de l'Homme, créateur du Musée national des arts et traditions populaires, premier directeur du Conseil international des musées.
Le musée couvrant de nos jours toutes les disciplines du savoir, il serait bon qu'en conséquence, à l'image de la recherche, il tende à l'interdisciplinarité. Georges-Henri Rivière.
Je dirais que chez lui, il n'y a pas un langage muséographique. Il y en a plusieurs.
Isaac Kiva.
Et ça se voit dans l'évolution de sa pensée concernant ce que c'est qu'un musée. Le musée des arts et traditions populaires, musée national, à un bout, les écomusées à l'autre bout. Ces idées qu'il a jetées tantôt de musées régionaux, de musées maisons, etc., etc. Et c'est un homme qui a eu à la fois, au cours de sa carrière et de son action, beaucoup de constance sur un certain nombre de points et qui, en même temps, a évolué sur d'autres.
Il reflétait en cela aussi un peu les différentes périodes qu'il a connues, depuis le surréalisme jusqu'aux conceptions historiques des annales. En chemin, il a été sensible à l'atmosphère Front populaire. Son temps se reflète dans son œuvre.
Tout à fait. Et je dirais même plus que cela, il avait cette aptitude extraordinaire de vivre son temps sur plusieurs registres. En même temps, parfois avec des péripéties délicates. Il était à la fois du milieu de l'avant-garde artistique et à l'aise avec les paysans où il avait commencé à faire des enquêtes en 36-38. Il était à l'aise avec les historiens des annales et puis avec les jeunes architectes qui allaient se rassembler au musée pour les enquêtes sur l'architecture rurale. Peut-être l'exemple le plus étonnant de cette aptitude à surfer sur des vagues multiples d'une façon extraordinairement consciente, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. Ce musée a été créé au moment du Front populaire. Et son pli ruraliste et son pli largement orienté vers la vie traditionnelle, il l'a maintenu, il l'a eu, et il s'enracinait dans ce qui avait précédé. Arrive la guerre, et le régime de Vichy qui évidemment accentue ce pli. Et Rivière est resté aux commandes du musée. Il a pris le risque d'apparaître comme un homme qui collaborait avec les institutions politiques en place en allant dans le droit fil de la révolution pétiniste, la terre, le paysan, etc., en signant même des articles dans ce sens. Et en même temps, son musée était un endroit où, d'une part, continuait à se faire une recherche sérieuse, honnête, totalement dénuée de compromissions, et où, d'autre part, cette recherche était le fait, entre autres, de beaucoup de gens qu'il a abrités, qu'il a sauvés, auxquels il a permis de survivre ou de conduire une action dans la résistance. C'est un paradoxe extraordinaire, et je connais peu de gens qui auraient pu, de façon aussi délibérée, jouer un jeu aussi complexe.
Georges-Henri Rivière.
Je me suis occupé d'une sorte d'exposition précolombienne que j'ai réalisée au Musée des Arts Décoratifs, je crois que c'était en 1928, et à ce moment-là, un certain professeur Yves, dont j'ignorais absolument l'existence et qui était pourtant un grand américaniste dès ce moment-là, m'a fait dire par des tiers, je crois que c'était par le vicomte de Noailles, d'ailleurs par Charles de Noailles, l'époux de la célèbre Marie-Laure, il m'a fait que j'aille le voir. Cette exposition est intéressante, moi j'organise le musée d'ethnographie du Trocadéro. Eh bien moi je vous engage là. Attends, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que cette histoire? Non, je vous engage. Il en est résulté évidemment un certain nombre d'agencements nouveaux, une organisation nouvelle, la création des départements du musée de l'homme, dont un d'ailleurs était réservé à Jacques Soustelle, je m'en souviens bien, et un autre à André Scheffner, enfin le grand musicologue pour lequel j'ai fait créer, naturellement je me suis souvenu que c'était un musicien à ce moment-là, pour lequel j'ai fait créer un département d'ethnomusicologie. Il y a eu toute une série comme ça de créations. Il y a aussi l'arrivée de Griol, qui, avec ce que nous avons fait ensemble pour préparer cette grande mission Dakar Djibouti, qui a consacré la découverte des Dogons. Car les choses, ça faisait comme ça à ce moment-là. Il y avait toujours des canaux bien différents de ce qui se passe maintenant. Il y avait moins de diplômes, il n'y avait plus de carrières fulgurantes pour des raisons variées. Alors, ça veut dire toutes les grandes aventures du pré-musée de l'homme, enfin du musée d'ethnographie du Trocadéro, avec, je sais pas comment dire ça, par exemple, la grande exposition de l'île de Pâques.
Il venait à l'idée de personne de penser qu'on pouvait faire l'ethnologie devant sa porte. C'est peut-être pourquoi, aussi, il faut dire que, pour faire de l'ethnologie en France, Rivière avait, dès le début, forcé, en quelque sorte, sur l'ethnologie des campagnes. Il avait parfaitement compris que, d'une part, c'était un monde en mutation qu'il fallait saisir avant de sa transformation, et d'autre part, que ça donnait un peu de distance psychologique qui permet de voir un certain nombre de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'intéressait pas à l'urbain, à la culture quotidienne, parfois aux franges apparemment amusantes. Je me souviens d'une étonnante exposition sur le cirque qu'il a fait, ou alors la culture ouvrière. Il avait fait aussi une très belle exposition sur les compagnonnages. Le compagnonnage et les compagnonnages. Chaque exposition était préparée soit par des recherches de terrain, soit par des recherches d'archives et de bibliothèques. Parce qu'il faut bien dire qu'à l'époque, le musée, c'était ces longues salles et quelques bureaux au sous-sol du musée du palais de Chaillot, les objets étaient là, les archives étaient là, mais enfermées. Et la seule manière de manifester l'existence publique du musée, c'était des expositions, dites expositions temporaires.
L'exposition est le pignon sur rue du musée, son ouverture sur la société.
Rivière avait réalisé en 1959...
Jean-Claude Duclos.
Pour le centenaire de la parution de Mireille en 1859, une grande exposition ici à Paris, et je crois même au musée de l'Homme, au musée du Trocadéro. Une grande exposition à laquelle d'ailleurs avait beaucoup travaillé... un homme tout à fait étonnant qui s'appelle Jean Blanc, mais je pensais aussi à Charles Galtier. Et alors Rivière avait repris le texte de Mireille et avait montré à quel point ce texte était chargé d'observations ethnographiques et à quel point Mistral, au-delà de son talent d'écrivain, était aussi un ethnographe. Et bien sûr, lorsque nous avons donc mis au point ce programme du musée Camarguais, les références à Mistral étaient, enfin de sa part, étaient continuelles. Si bien d'ailleurs que nous avons appelé une des parties du musée la Camargue au temps de Mireille. Parce que vous savez que Mireille, dans son épopée, donc s'enfuit pour aller retrouver Vincent et va donc traverser d'abord la Croix, puis ensuite la Camargue. Et que cette traversée de la Camargue jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, où elle va donc retrouver Vincent, mais pour y mourir dans ses bras, eh bien que cette traversée de la Camargue est le prétexte justement pour Mistral de raconter beaucoup de choses. Enfin, la scène du dépiquage du blé, la ferrade, etc. quoi. Et on remarque aussi que les trois grands prétendants sont les trois personnages de la Camargue, c'est-à-dire le berger transhumant, le toucailleur des billes, le gardien, le toucheur de bœuf, Urias, et le troisième, qui est le gardien de chevaux, Véran.
De 55 à 62, j'ai été en contact permanent en collecte et autres études avec Jean Rivière pour préparer une exposition sur les bergers.
Jean Blanc.
Depuis bien avant-guerre, j'étais berger à Saint-Rémy de Provence et ensuite, après en 40, alors en Camargue avec transhumance dans le Vercors. Et finalement, pour éviter beaucoup de problèmes qui se produisaient en Camargue à cette époque-là, pendant l'occupation, je m'étais en somme réfugié dans les Pyrénées centrales. Ce qui fait que j'avais tout de même vécu la vie pastorale profondément, sans addition littéraire ou sans addition scientifique ou de culture classique. Ce qui fait que j'ai eu des relations un petit peu ambiguës de ce fait-là avec Jean-Jean Rivière, parce que j'étais ce qu'il n'aimait pas trop, ce que la science n'aime pas beaucoup. J'étais à la fois informateur et enquêteur. C'est-à-dire que, malheureusement, je connaissais tellement les réponses d'avant que ça finissait par être peut-être dangereux du point de vue scientifique. Mais en tout cas, ça avait un avantage extraordinaire. C'était la possibilité de faire des collectes très, très importantes et vraiment des séries parfaitement constituées. Vraiment, on n'oublie plus rien. Ce qui était tout à fait dans l'esprit de Rivière, d'ailleurs. Et c'est pour ça, je crois, que nous avons eu une certaine complicité. C'est que il le savait peut-être avant moi, bien sûr, qu'il fallait constituer les séries. Le moindre manque dans l'authenticité rendait toute l'affaire douteuse. Et ça, de ce côté-là, alors, nous étions complètement d'accord.
Vos collectes, vous les avez faites non seulement dans les pays qui étaient les vôtres, c'est-à-dire du sud de la France, mais en Beauce également, notamment pour cette exposition des bergers ou pour la vitrine.
Oui, le problème était de faire une vitrine principale d'accueil de la grande exposition sur les bergers de France. Et évidemment, malgré l'apport que je pouvais faire, il ne s'agissait pas de faire uniquement du berger méditerranéen. Et un jour, nous sommes partis avec Jean-Jean Rivière en Beauce. J'avais les adresses, bien entendu, puisque j'étais attaché à la Fédération des éleveurs. Et nous sommes arrivés normalement sur ce personnage que nous cherchions, qui était un berger de Beauce, équipé avec ses chiens, qui sont des chiens de Beauce, avec ses techniques de garde. Et arrivé là, il m'a dit « c'est moi l'enquêteur ». Et ce qu'il est arrivé à faire, j'avoue que ça a été un spectacle, il a réussi à emmener le berger dans une grange, où il avait quand même quelques vêtements, quelques salopettes de travail, à le faire se déshabiller totalement, chaussures comprises, chaussettes, à lui faire vider ses poches pour conserver ce qu'il y avait dedans, et il s'est rhabillé avec une salopette, et il a réussi à persuader le berger que c'était indispensable à la vie de la nation et à la science de l'avenir. Ce qui fait que nous avons eu, et d'ailleurs ce costume est toujours aux arrestations populaires, mais il avait été exposé magnifiquement parmi les autres grands bergers de France. C'est ainsi de l'authentique absolu, quoi. Et en même temps, de la vérité qui ne peut pas être une vérité limitée à la beauté d'un objet ou à l'usage d'un objet. Ce qu'il précède, ce qui le suit, quelle que soit sa nature, a autant d'importance. Et ça, je crois que c'est quand même l'ABC de la muséographie.
Georges Rivière excellait à sentir ce que les gens pouvaient donner, ce que les objets pouvaient donner, bien sûr, mais à utiliser les compétences de chacun et à tout faire servir à son dessin.
Ah oui. C'est-à-dire que son dessin, c'était évidemment une mission fantastique, si on appelle ça une mission, mais une mission fantastique qui a rendu des services extraordinaires, on peut dire, à la nation et à la science. Et son dessin, c'était aussi de se faire une joie fantastique. Et en même temps, sa rigueur, c'est sa rigueur, je crois, qu'il faisait, qu'il insistait, qu'il appuyait lourdement. D'ailleurs, j'ai des lettres qui sont assez savoureuses à ce sujet-là, où vraiment, il arrive à vous faire donner quelque chose. Il arrive à vous faire ou donner une idée, ou trouver un objet qu'on ne savait pas comment trouver, ou si vous aviez l'objet, alors là, vous étiez foutu. Alors là, il n'y avait plus qu'à le donner vraiment. Vous savez. Ça, mais on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'avoir ce tempérament-là. C'était son boulot de faire ça. C'était son tempérament, et c'était sa joie, et c'était sa mission de le faire.
André Desvalets, vous avez travaillé très longtemps avec Georges-Henri Rivière, non pas seulement quand il était en activité, mais même après sa retraite. Alors là, vous êtes très au courant des principes de muséographie. Quelle était la base ?
Ça n'a pas été un apprentissage théorique, c'était vraiment un apprentissage pratique. Il faut faire ci, il vaut mieux ne pas faire ça. La base, c'est, je dirais, l'exemple, la rigueur. La rigueur, surtout, hein, toujours. La rigueur à tous les niveaux. Au niveau scientifique, ne rien exprimer qu'on n'ait pas vérifié. Je me souviens, il était très maniaque. Il fallait toujours, il avait raison, étaler des papiers craft au sol avant d'étaler des objets, quels qu'ils soient, même si pour certains, les outils de forgerons ne méritent peut-être pas le même respect qu'une œuvre d'art, mais il fallait toujours prendre ses précautions, s'arranger pour qu'il subsiste des allées et des passages, pour qu'on n'ait pas à marcher sur les œuvres. Donc cette exigence jusqu'au dernier moment. J'ai vu des dernières nuits avant le vernissage faire reprendre entièrement la couleur de certains panneaux, par exemple. Elle est en même temps très exigeante sur le plan, enfin disons esthétique, si on veut parler court, mais sur le plan muséographique, c'est-à-dire... pour la mise en valeur maximale des objets. Vous savez, sa doctrine qui est que l'environnement architectural ne pollue en rien la lisibilité de ce qui est exposé, que seul ce qui est exposé soit visible, uniquement éclairé par la lumière artificielle, si possible, sur des fonds neutres et sans aucun autre parasite.
Fidèle à nos théories déjà anciennes sur le rôle pédagogique de la présentation de musées, nous nous garderons de céder à la tentation du livre sur le mur. Les objets auront en priorité la parole. Les choix et les assemblages leur faciliteront ce rôle. Il n'y aura pas entre eux et le public l'écran d'un appareil décoratif indiscret.
Ce qui était vrai déjà pour les expositions qui ont eu lieu au Palais de Chaillot, préside à l'installation des galeries, que ce soit la galerie culturelle ou que ce soit la galerie d'études du Musée des Arts et Traditions Populaires.
Oui, tout à fait. Cette doctrine que je viens rapidement de résumer, en fait, elle s'est forgée sur le tas. Je vois un tournant, d'ailleurs, assez important, c'était en 1961. Nous avions à monter une exposition sur la charité de Saint-Martin, à partir de sculptures qui avaient été exposées à Beauvais, et auxquelles s'ajoutait une section de manuscrits qui venait de la Bibliothèque nationale. Il était directeur de l'ECOM, il connaissait tout à fait les normes qui venaient d'être, qu'on essayait de généraliser dans les musées sur le plan international, avec des niveaux d'éclairement très bas. Et il avait fait le pari, devant le conservateur de la Bibliothèque nationale qui apportait les manuscrits, de tomber presque, non pas niveau zéro, mais au minimum requis, même en dessous des normes imposées. Et donc, il a dit, bon, ben, on fait le noir, et puis on essaye de monter petit à petit. Donc, ça veut dire d'abord qu'il n'y ait rien, aucune couleur, mais surtout même pas du blanc qui prend trop la lumière. Donc, on met tout dans le noir, et on relève, et on est arrivé à monter à 30 lux, pas plus, le niveau d'éclairement, ce qui paraît complètement aberrant quand on se trouve dans un musée très éclairé. Et alors, c'est cette théorie que nous avons mise en pratique pour faire les galeries du musée. Donc, c'est ce qui a pu paraître à certains comme une mode tout à fait personnelle, en fait, était vraiment expérimentée par rapport aux exigences de la conservation, c'est-à-dire les niveaux d'éclairement les plus bas, et par rapport à l'esthétique appliquée donc à une bonne muséographie, à savoir rien d'autre à voir que ce qu'on veut montrer.
D'où, par exemple, le fond noir des vitrines, voilà, au Musée des Arts et Traditions Populaires.
C'est ça, même plus que ça, puisque l'architecte a essayé, ce qui est assez rare de la part des architectes, de s'effacer complètement, de faire en sorte que ces vitrines ne soient pas des meubles meublants, mais disparaissent tous également dans l'obscurité, soient complètement neutralisés également.
Oui, donc là, on retrouve à la fois le souci scientifique, le parti didactique, mais également le parti esthétique s'affirme, parce que c'est beau.
Bien oui, alors c'est ça le paradoxe, un peu, pour ceux qui regardent les choses avec un peu de recul, c'est que ces exigences étaient uniquement scientifiques, et je me souviens lorsqu'en 71-72, on a inauguré la galerie d'études du nouveau musée, beaucoup de premiers visiteurs se sont dit ce sont vraiment des natures mortes. Et effectivement, l'abnégation de la présentation était telle que, je parlais de jansénisme moi, que ces objets qui étaient exposés seuls finissaient par apparaître avec une richesse, je dirais presque excessive, par rapport à ce qu'on peut souhaiter habituellement dans un musée d'ethnographie, où on essaye de mettre en avant plutôt le jus des objets plutôt que leur forme.
Oui, mais par exemple, la fameuse vitrine où tous les objets sont suspendus, les objets, ce sont des sonnailles de moutons, et en avant, il y a toute la silhouette du berger parce que tous les vêtements sont suspendus et on voit le collier du chien et on sent réellement le troupeau. Donc c'est rigoureux esthétiquement parlant et c'est beau à voir et l'imagination se réjouit.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Ce nouveau musée des arts et traditions populaires a été construit à la lisière du bois de Boulogne à Paris. Et cela, c'était selon un programme minutieusement établi par Georges-Henri Rivière. Ce musée est aussi le siège du Centre d'ethnologie française, laboratoire associé au CNRS, créé en 1966 et qui était également dirigé par Georges-Henri Rivière. Ici, Jacques Chéronneau, vous avez la responsabilité du département musique.
Bien, le département de la musique est une unité de recherche d'une part et de conservation d'autre part, qui est comme telle issue peut-être du modèle de l'ancien ou du musée des arts et traditions populaires lorsqu'il était à Chaillot. Je crois que historiquement, ce qu'on appelait ethnomusicologie de la France, en gros, était établi autour ou sur ce qu'on pourrait appeler un coutumier musical de la paysannerie française notamment, et tout ça entre guillemets évidemment, et qui est conservé sous le label commode de société de musique traditionnelle. Nous sommes élargis, c'est-à-dire que nous nous sommes posés la question suivante. Si nous devons faire une ethnologie de la musique dans nos propres sociétés, pourquoi privilégier une société, elle-même disparue en voie de disparition, alors que la musique est partout et que nos sociétés elles-mêmes utilisent le mot de musique? Nous avons des institutions, nous avons des conservatoires, nous avons etc. Alors on va étudier toutes les structures de la musique dans des sociétés africaines, par exemple, et pourquoi pas dans la société française?
Il y a d'ailleurs ici un certain nombre de documents portant par exemple sur la musique dans les couloirs du métro ou
tout
des choses très contemporaines.
Des documents sonores de manifestations. Nous avons peut-être des pleins chants musicaux qui sont de la musique on ne peut plus savante, des pleins chants musicaux des 17e, 18e siècle que nous avons enregistrés il y a quelque temps en Normandie, qui sont des choses absolument superbes et qui, lorsque nous les avons enregistrés, c'était auprès d'ecclésiastiques vénérables qui avaient quelque chose comme 70, 75, 80 ans, il y a de ça 3 ou 4 ans. Et les répertoires que nous avons enregistrés sont des répertoires qui pratiquement n'étaient pas chantés dans le cadre liturgique, mais que chantaient ces ecclésiastiques sur les cours de récréation au grand séminaire. C'était un peu des choses qui se transmettaient en plus quasiment oralement dans les grands séminaires, enfin dans le grand séminaire en question en Normandie. À côté de ça, nous avons des documents probablement précieux et uniques. Qui sont les grandes enquêtes ethnographiques réalisées principalement au lendemain de la guerre, en 1945-46, où là, pendant 10 ans, il y aura tout un travail systématique de collecte de musique sur le terrain. Actuellement, nous conservons en documents originaux quelque chose comme 80 000 phonogrammes. Et ce que nous appelons des phonogrammes, nous, ce sont des unités autonomes de musique enregistrées. Une chanson, si vous voulez, un conte.
Sont un fragment de l'os qui chante, conte à partie chantée en breton. Finistère, 1967.
Arrive qu'un anel se noie. C'est d'ailleurs comment se voit au bas. Oh, celle-là. Oh, oui, de druer sa témesse. Oh, mais ta brûlée, pas oh, mais y'a zobé de la zèle. Oh, mais y'a zobé de la zèle, t'intéresse ton y'a pas. A blam da dri boke pimpino me yama be cave.
Vous êtes également le conseiller du musée de la chanson qui est en voie de réalisation. C'était un projet jadis lancé par Georges-Henri Rivière.
Voilà quelqu'un qui s'intéressait aux variétés et qui, en même temps, a voulu créer ou fait partie des gens qui sont à l'origine d'un projet de création d'un musée de la chanson. C'est-à-dire des variétés de la chanson enregistrée du début de ce siècle jusqu'à pas nos jours, mais à l'époque, le projet a été construit en 65 à peu près. Et c'est rapidement, comment dirais-je, endormi. Les documents du musée de la chanson, c'est-à-dire des partitions, des livres, des documents tout à fait intimes et personnels, des photographies d'artistes, ont été confiés au musée.
Chante une belle chanson, mais je ne connais pas la musique. Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques. Mais je trouve ça bien inutile, fatigant et difficile. Alors, si tu veux m'écouter, je vais faire un effort. Et je vais chanter sur deux notes. Je te dis que je t'aime. Sur trois notes, je te donne mon cœur. Sur quatre notes, je développe le thème. Et puis toute la gamme, je chante mon bonheur.
Quelles sont, Isaac Kiva, les idées dominantes de Georges-Henri Rivière, créant, si on peut dire, l'ethnologie moderne de la France?
La première, et peut-être la plus importante, c'est celle de musée-laboratoire. C'est-à-dire la nécessité double, d'abord d'inscrire le développement d'une discipline dans une institution, et ensuite de lier intimement, et c'est ça, bonne connaissance de l'histoire de notre discipline, l'institution muséale et l'institution de recherche. Il ne faut pas oublier que l'ethnologie est tard venue parmi les sciences, les places dans les universités étaient prises partout, dans tous les pays, et l'institution avec laquelle elle a émergé dès le début, dès même, peut-on dire, sa préhistoire, c'est le musée. Mais cette idée très clairement formulée d'un musée de recherche, musée tout court, d'un centre de conservation, de diffusion, mais aussi d'acquisition des connaissances, d'un centre de dialogue avec les scientifiques, mais aussi avec le grand public, était au cœur de son œuvre, de ce qu'il a fait. Ça n'était pas son idée, mais il a su la pêcher à la fois dans l'histoire du domaine et dans l'air du temps. Je dirais que la deuxième idée, neuve alors en France et qui reste très étrange, c'est celle-ci, à savoir que les chercheurs sont des aventuriers, sont des écrivains, sont parfois des créateurs personnels, mais que le produit de leurs recherches, leurs archives, les documents qu'ils produisent, doivent s'intégrer à un fonds collectif et pouvoir être réanalysés plus tard. Et puis, il avait aussi une autre idée, que, dans le détail de laquelle il est impossible d'entrer ici, qui est controversée, qui pose beaucoup de problèmes, et qui était celle de l'association en un seul et même effort d'ethnographes, de folkloristes, de géographes, d'historiens, d'architectes et de muséographes. C'est-à-dire cette notion de pluralité des dimensions du monde occidental, du monde dont nous nous occupons en ethnologie de la France, à laquelle doit correspondre une association de toutes les disciplines qui s'intéressent à ces sociétés, et qui, évidemment, n'ont pas attendu l'ethnologie pour s'y intéresser. L'expression la plus claire et la plus tardive, je dirais, de cette conception, c'est cette notion du musée de l'espace et du temps qui la collera à la création du concept d'écomusée.
Jean-François Leroux.
Toujours avec cette volonté encyclopédique de regarder les choses, il a été l'initiateur avec d'autres sociologues, mais enfin, il a été l'initiateur de la plus importante des recherches coordonnées sur programme, comme on disait, et qui consistait à passer au peigne fin, au crible totalement, un territoire traditionnel sous tous les aspects possibles de la civilisation qui était celle qui survivait dans ce territoire.
Et l'Aubrac.
Il a en particulier fait la RCP Aubrac, mais il a fait également une RCP dans le Châtillonnais, en Bourgogne, en même temps qu'une autre RCP avait eu lieu à Plozévette, en Bretagne. Il y en a eu trois en France. Alors la plus importante est incontestablement celle de l'Aubrac, et celle de l'Aubrac qui a permis à des chercheurs médecins, musiciens, peintres, linguistes, de toute nature, d'enregistrer,
de collectionner également.
Du monde agricole et du monde de pré-industriel aussi, de rechercher toutes les techniques artisanales, toutes les pratiques rurales qui subsistaient encore en Aubrac à cette époque-là.
Pourquoi l'Aubrac ? Parce que je connaissais la région, que j'avais été impressionné, avec l'aide d'ailleurs d'indication d'amis comme Corneille Geste, sur la qualité de carrefour, d'influence, de situation au centre de la France de cette région, d'une imbrication de sociétés d'une grande complexité, également de la prédominance de cette race bovine dite de l'Aubrac, avec une nuit historique sur ses origines, de problèmes également socio-culturels, de problèmes de culture, de musique, d'expression graphique, etc., qui m'intéressait également beaucoup. Alors, on s'est employé, ayant fait choix de cette région, à nous acquérir les concours variés, pas aussi nombreux que nous l'aurions voulu, avec pas peut-être autant de discipline qu'il ne l'aurait fallu, mais quand même déjà comme un effort courageux pour inaugurer ce genre de recherche pluridisciplinaire dans le domaine des sciences humaines. On s'est attaché, nous étions ethnologues, nous voulions faire surtout une observation du présent, avec ses archaïsmes, avec ses innovations, enfin des vieux systèmes de l'équipement des burons jusqu'à l'insémination artificielle, on avait une belle étendue, enfin, entre l'archaïsme et l'innovation. Mais aussi, nous savions que dans le 19e siècle et dans le 20e siècle, nous pouvions observer des transformations très profondes et peut-être en retard sur un certain nombre d'évolutions culturelles à l'observation desquelles je m'étais attaché plus haut, enfin dans mon expérience d'ethnologue et, je peux le dire, d'historien de l'art populaire.
Che con de scarsi stirò come un fiel, quo valveros costogno, che lo roscalo de muoro al cuor, quo valveros costogno, che lo roscalo de muoro al cuor.
Hugues de Varenne-Bohan.
Je l'ai suivi non seulement pendant la période où j'ai été son adjoint à l'ICOM de 62 à 64, mais ensuite de 64 à 74, où il était resté, plutôt de 67 à 74. Je l'ai vu évoluer. Et il avait toujours été fasciné dans cette idée de mélange des genres, histoire, archéologie, ethnologie, sciences naturelles, etc. Il a toujours été fasciné par les pays, les musées de plein air scandinaves.
Tout en constatant que la France se prêtait mal à des musées semblables.
Oui, mais c'est quand même lui qui a fait le premier musée de plein air en France. Je rappelle que le musée de Marquèze, que beaucoup de gens oublient, le musée de Marquèze existait avant le concept d'écomusée et a été pris par Georges-Henri Rivière comme modèle de ce qu'il a ensuite appelé écomusée. Il y a eu aussi un concept de musée historique global. Musée historique prenant en compte depuis la
formation
la géographie physique
presque.
Jusqu'à l'histoire moderne et contemporaine, jusqu'au développement technique et économique. Et le musée de Bretagne a été son laboratoire, si on peut dire. Tout ce qu'il touchait, tout ce à quoi il s'attachait, était pour lui, avait la fonction d'un laboratoire. Ça a été le cas de l'Aubrac, car les 5 années de travail sur l'Aubrac ont été pour lui un laboratoire de prise en compte d'un territoire. Il est arrivé ensuite à l'écomusée, et donc par l'écomusée, il a tant à Marquèze qu'au Creusot et qu'ailleurs, en Camargue, il a, défini une idée de musée total.
En 1971, à Dijon, lors d'une session du Conseil international des musées, Robert Poujade, ministre de l'Environnement, adopte la notion et le mot d'écomusée. Le mot ayant été inventé peu avant par Hugues de Varenne-Bohan, mon successeur à la direction de l'ICOM.
Serge-Antoine, les écomusées, c'est la dernière grande réalisation de Georges-Henri Rivière.
Je crois qu'il faut faire un petit détour tout de même par les parcs naturels régionaux. Nous avons à deux, Henri Bauger, qui est à l'époque, lui et moi, préparions le colloque de l'URSS. Colloque de l'URSS qui doit se situer dans les années 67, quelque chose comme ça, ou 66, débarquer dans son bureau pour lui dire « Voilà, on a besoin de vous ». L'idée était d'offrir à Jean-Henri le territoire français qu'il avait lui-même dans la peau. Et on venait lui dire « Voilà, on a envie de faire dans un certain nombre de territoires » de morceaux de France, d'en faire, non pas un musée du passé, et d'ailleurs, Georges-Henri réagissait toujours pour dire « moi, je ne suis pas un homme du passé, la muséographie ou la muséologie ne sont pas des instruments du passé, sont des instruments de conservation, au bon sens du terme ». L'idée était de faire de ces territoires des endroits que l'on conserve, que l'on gère, pour essayer de maîtriser, si vous voulez, leur devenir et d'expliquer en quoi ce territoire avait une certaine logique, des racines, si vous voulez, du passé. Donc de pouvoir lire à livre ouvert des morceaux de France.
Tout en conservant à ce territoire sa vie normale et ses habitants qui étaient déjà avec leurs propres activités.
Oui, tout à fait. Alors ça, absolument. Et Georges Henry a immédiatement compris qu'on lui offrait, si vous voulez, un terrain vrai, qui ne soit ni passéiste, ni artefact fermé, si vous voulez, sur un objet, mais que ce soit un morceau de culture, un morceau de société. Et là, il nous a aidés donc, dans les concepts.
Jean-Claude Duclos, est-ce que Georges Henry Rivière était quelqu'un qui imposait sa manière de voir?
Pour moi, qui avait tout à apprendre de la muséographie, je pense que je n'avais rien d'autre à faire que de l'écouter et que d'essayer effectivement de faire au mieux ce qu'il me disait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis et redis que le musée Camarguais est une application de l'enseignement de Georges-Henri Rivière. Aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment. S'il a tant apporté dans ce concept d'éco-musée, c'est pas tant... Enfin, c'est bien sûr lié à son talent, à son génie, mais c'est aussi parce qu'il a su intégrer dans cette proposition qu'il a fait de l'écomusée, il y a su intégrer les réponses que demandaient, enfin sans les trouver, des tas de gens à travers le monde. En Camargue, lorsque nous avons voulu rayer ce musée, il n'y avait rien. Donc il a fallu tout faire et finalement prévoir en même temps que le programme l'acquisition de l'ensemble des objets qui allaient nous permettre de réaliser la muséographie du musée Camarguais. Et là, nous avons donc, en même temps que le programme, programmé une grande mission de collecte. Nous nous sommes aperçus que c'était vraiment le moment ou jamais d'arriver à récolter les objets qui allaient nous permettre de témoigner de l'histoire récente de la Camargue. Parce que la Camargue est un pays où les traces du passé disparaissent plus vite qu'ailleurs. Voilà pourquoi Rivière employait ce terme de campagne d'ethnologie d'urgence. Rivière, c'était toujours ça qu'il voulait arriver à faire, c'est-à-dire faire ce lien, si vous voulez, entre passé et présent, entre ce qui était devenu invisible, mais qu'il fallait rendre... visible. Et si possible même, Rivière le rajoutait, donner la possibilité à une population de pouvoir imaginer son futur, maîtriser son futur.
Un écomusée est un instrument qu'un pouvoir et une population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble. Un miroir où cette population se regarde pour s'y reconnaître, où elle recherche l'explication du territoire auquel elle est attachée. Jointe à celle des populations qui l'ont précédée, dans la discontinuité ou la continuité des générations. Un miroir que cette population tend à ses hôtes, pour s'en faire mieux comprendre, dans le respect de son travail, de ses comportements, de son intimité.
La population, une fois que le musée a été fait, ne s'est pas reconnue parce qu'elle s'imagine être autre.
Ce qui se passait, c'est qu'il y en avait qui ne s'y retrouvaient pas. Ils ne s'y trouvaient pas parce que, Pour beaucoup de Camarguais, c'est vrai, ce qui compte avant tout dans leur identité de Camarguais, c'est la place qui occupe le taureau. Bien sûr, le taureau est présent dans le musée, mais ce n'est pas lui qui occupe la place la plus importante. Nous avons été conduits à aménager ce musée dans une ancienne bergerie. De ce fait, nous avons effectivement occupé une partie de ce musée pour montrer, avec le témoignage du berger qui l'a occupé, ce qu'était ce bâtiment autrefois. Alors, certains ont voulu effectivement croire que... Enfin, ont voulu dire même que nous avions privilégié le mouton. Mais il est vrai aussi que s'il y a un élevage en Camargue qui, sur le plan économique, a joué un rôle important et même a assuré pendant longtemps la richesse des grands masses camarguais, c'était l'élevage au vin et la transhumance qui lui était associée.
Vous êtes le président de la toute jeune fédération des écomusées de France, 28 écomusées, et ils sont bien entendu très différents les uns des autres. Mais il me semble assez révélateur que celui du Creusot ait été un des premiers créés.
Mais effectivement, le Creusot, c'est la première fois qu'un musée se donne pour objet explicitement une civilisation industrielle, une population de mineurs, une population de métallurgistes, dans un pays qui, en lui-même, est une sorte de témoignage archéologique de toute l'histoire de l'industrialisation, qui a été le lieu d'une expérimentation sociale, aussi bien qu'une réussite industrielle, mais une véritable expérimentation sociale, presque la réalisation d'une utopie urbaine, d'une utopie culturelle, qui fait que l'appartenance à ce pays était aussi l'appartenance à une culture d'entreprise, à une famille patronale. Et...
Mais d'ailleurs, le Creusot joue un peu le rôle de mythe, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Oui, le Creusot a beaucoup communiqué, a beaucoup fait savoir son expérience, et l'expérience était effectivement très originale. Et la participation des populations du Creusot à la conservation de ces objets-là a été importante à un moment donné. Et le Creusot, bien sûr, a servi de phare, a servi de figure de proue pour l'écomuséologie au niveau international. Et encore aujourd'hui, nombreux sont nos collègues d'Espagne, de Portugal, ou d'Italie ou du Québec qui connaissent bien l'expérience du Creusot, voire qui ont été formés, puisque le Creusot a eu aussi cette place importante de former des conservateurs, alors que la formation des conservateurs dans le modèle École du Louvre n'était pas du tout compatible avec les exigences du conservateur ethnologue dans un écomusée. Et par ce fait, il a eu une influence importante sur l'écomuséologie nouvelle, même sur la muséologie nouvelle. Et ça, dans le monde entier, en tout cas en Europe.
Hugues de Varinboan, vous avez travaillé en même temps que Georges-Henri Rivière à l'ICOM. Vous lui avez succédé. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette action de Georges-Henri Rivière ?
Oui, alors l'ICOM est une organisation professionnelle qui représente des institutions et des hommes. Depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la création du Conseil international des musées, Mexico, 1947. On peut dire de Georges-Henri Rivière qu'il a créé une profession. Il lui a d'ailleurs donné son nom, car je crois que c'est Georges-Henri Rivière qui a créé l'adjectif muséal. Juste après la guerre, il n'existait ni de muséologue, ni de muséographe, ni de profession muséale. La deuxième chose, il a appris à ces gens qui venaient de toutes origines, qui avaient toutes les spécialités, il leur a appris à travailler ensemble. Dès le début, le principe d'un président, d'un vice-président américain, d'un vice-président soviétique a été établi, et dès le début, les pays de l'Est, les pays de l'Ouest ont professionnellement coopéré beaucoup mieux qu'ils ne coopéraient à l'intérieur des autres organisations internationales. Une troisième contribution de Georges-Henri Rivière a été d'ouvrir l'esprit des gens de musée, c'est-à-dire de moderniser la mentalité, le comportement professionnel des gens de musée. Il a refusé l'aspect conservateur. Il a voulu que l'on ne parle plus uniquement de musée d'art, mais il a, par l'ethnographie et par l'histoire, par sa passion pour les sciences exactes, auxquelles il ne connaissait rien, mais qu'il intuitivement il reconnaissait comme étant fondamental pour l'avenir du musée, Georges-Henri a cassé les distinctions de disciplines, ce qu'il appelait les disciplines de base du musée. Il a vraiment joué un rôle fondateur, si on peut dire, dans ce qu'on appelle la muséologie moderne. Georges-Henri, qui était, par certains côtés, extrêmement traditionnaliste, traditionnel, ça c'est son côté ethnologue, ethnographe, était en même temps, par certains côtés, extrêmement révolutionnaire, extrêmement au courant de l'actualité, de l'évolution des choses. Et dès 1959-60, avant même que je le connaisse, il avait suivi de très près les luttes de libération des pays coloniaux. Il avait décidé qu'il fallait que les gens de musée se rendent compte que l'autre moitié du monde, c'est-à-dire les pays dits en voie de développement, pour le musée, était un défi. Et qu'il faudrait d'une part les respecter en tant que pays indépendants, d'autre part les aider à développer l'institution muséale, la profession muséale, adaptée à leurs conditions.
Ça, c'est la Réunion de Neuchâtel.
C'est la Réunion de Neuchâtel qui, quand on la regarde, c'était en 62, quand on la regarde après 30 ans de distance, paraît un peu élémentaire comme conception du développement. Mais si on la regarde au moment où toutes les colonies n'étaient pas encore indépendantes, loin de là, était une réunion que moi j'appellerais volontiers prophétique. C'est lui qui a donné les mots et les idées. C'est à la suite de cette réunion de Neuchâtel que l'UNESCO a commencé ses grandes réunions, ses grandes tables rondes sur le tiers-monde, sur le rôle des musées dans les pays en voie de développement. Georges-Henri Rivière, pendant 20 ans, et il continuait à y aller après avoir quitté l'ICOM, a provoqué la création d'une communauté mondiale des spécialistes de conservation et de restauration du patrimoine. Il avait la chance, il avait tous les musées du monde, ou presque, et il a saisi cette chance pour introduire dans l'esprit des gens la notion de la lumière, la notion du climat, la notion du laboratoire de recherche sur la conservation, la notion d'introduction de la science dans la restauration, qui jusque-là était empirique par des restaurateurs, peintres, artistes.
Il a d'ailleurs eu à faire des programmes ou des projets pour un certain nombre de musées dans le monde.
Alors, il y a eu le cas de la coopération étroite pendant des années entre Georges-Henri et la Fondation Gulbenkian, à la fois sur le concept et le programme muséologique du musée d'art de la Fondation à Lisbonne, et concept muséologique et programme du musée d'Irak à Bagdad. Dans les deux cas, il a renouvelé le concept de programme architectural et muséologique combiné. Plus modestement, c'est lui qui a été le pédagogue muséologique pour les musées d'Algérie.
Un grand souci de la formation des générations qui suivent.
Oui, il a enseigné à l'école du Louvre pendant longtemps, puis dans la dernière partie de sa vie, il a fait des cours de muséographie à l'université. Et je voudrais bien rappeler que peut-être la France est un des rares pays où il n'y a pas dans le système universitaire d'enseignement relatif au musée. Beaucoup de gens ont trouvé auprès de lui le seul enseignement disponible. Il amenait les gens sur place, il leur montrait les musées, il avait cette extraordinaire connaissance personnelle de centaines, sinon de milliers de musées à travers le monde, et il a transmis, et c'était un animateur hors pair, et quelles qu'aient été les difficultés que les uns ou les autres ont pu avoir avec lui, parce qu'il en a eu, personne n'est sorti sans être marqué de la fréquentation de Georges-Henri Rivière.
Dans les deux galeries du Musée national des arts et traditions populaires, des vitrines sont réservées au cirque, aux marionnettes et aux fêtes foraines. Et vous, Marie-Claude Groens, outre vos recherches, votre enseignement, vous êtes en train de préparer un musée entièrement consacré au théâtre forain. C'est au fond, me semble-t-il, une vitrine qui prolonge les autres.
Pierre Soulier était le bras droit de Georges-Henri Rivière dans le domaine des arts du spectacle. Et je me rappelle souvent avoir visité avec lui et avec des étudiants que je conduisais là, les fameuses galeries où on voit apparaître ce type d'objets. Et lorsqu'on en arrivait à la fin, par exemple, de la grande vitrine des marionnettes, Pierre Soulier déclarait, voilà, à partir de là, on aurait dû continuer vers le théâtre forain, le théâtre d'acteurs vivants, pas le théâtre de marionnettes. Mais nous n'avions plus la place. Et de toute façon, le théâtre forain est représenté par les théâtres de marionnettes foraines.
Et alors, vous avez eu envie de faire plus ?
Un jour, j'ai un étudiant qui est venu me voir. Il m'a dit que c'était ça qui l'intéressait, pour des raisons personnelles. Alors je lui ai donné mes informations, il est parti dans la nature, il a découvert des nichées de forains. Nous avons établi des rapports qui ont duré longtemps pendant 7 ans. Et puis un jour, c'est venu des forains eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à faire un film, un an plus tard. Bon, ce film, il fallait trouver un lieu pour le tourner. Il fallait que ce lieu soit dans le Loiret, car ils habitaient majoritairement dans cette région. Et finalement, c'est la commune d'Artenay qui nous a accueillis, car le maire, nous avons là rencontré un maire qui a accepté de nous héberger, de nous donner toute facilité. Et puis à la fin de la réalisation, on s'est dit, eh bien voilà, on a rassemblé beaucoup de matériel, les textes sont rassemblés, ils sont enregistrés. Nous avons rassemblé, les acteurs avaient rassemblé leurs costumes, ils les avaient remis en état. Ils avaient remis en état une partie de leur décor, leur nœud blanc. Et on se disait, c'est vraiment dommage si tout ça repart à droite, à gauche. Et c'est ce qui se serait passé si le maire ne s'était pas dit. Et à la fin de l'été, je lui ai dit, ça ne vous dirait rien de faire un petit musée du théâtre forain. Et à partir de ce moment-là, on a gelé tout ce qui avait été rassemblé. Et alors tout s'est décidé. Je dirais que nous avons 90% d'à peu près des objets qui sont nécessaires, qui étaient nécessaires à un théâtre pour tourner, disons aux alentours de 1950 ou bien au début du siècle. C'est-à-dire que nous avons le costume, décor, nous avons les bibliothèques foraines, nous avons les accessoires, nous avons le maquillage, nous avons les acteurs eux-mêmes qui sont capables de nous dire comment jouer. Nous avons maintenant les scènes que nous avons tournées, nous avons les perruques, nous avons nous devons avoir dans l'inventaire, puisque l'inventaire est terminé, nous avons 2000 numéros à l'inventaire, dont beaucoup sont des numéros complexes en réalité.
Est-ce qu'on peut dire, Hugues de Varennes-Bohan, que l'œuvre de Georges-Henri Rivière, son œuvre efficace, pas une œuvre écrite, bien sûr, que son œuvre a des prolongements en France, dans le monde?
Dans beaucoup de domaines, et notamment en France, son travail reste le point le plus avancé auquel on est arrivé. La conservation, par exemple, le concept de musée d'histoire, de musée d'ethnographie, tout cela, même si les choses ont évolué, son influence demeure même quand on ne la reconnaît pas comme telle. Il y a une deuxième chose, c'est que je crois que Georges-Henri Rivière a rendu possible un mouvement qui s'appelle actuellement lui-même, mouvement de la nouvelle muséologie, qui va beaucoup plus loin, mais qui n'aurait jamais existé sans l'ouverture que Rivière a donnée à la muséologie.
Profil perdu. Georges-Henri Rivière, 1897-1985. Une émission de Paul Chavas avec Serge Antoine, Jean Blanc, Jacques Chéronneau, Isaac Kiva, André Desvallées, Jean-Claude Duclos, Marie-Claude Groens, Jean-François Leroux, Philippe Méraud, Hugues de Varennes-Bohan et la voix de Georges-Henri Rivière. Texte de Georges-Henri Rivière, lu par Elisabeth Tamaris. Archives INA, rassemblées par Elisabeth Verrière. Mixage, Philippe Bredin.
Réalisation Daniel Fontana Rosa.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 octobre 1990.